France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Des taxes contre les migrants. Donald Trump veut faire pression sur le Mexique accusé d'être trop laxiste avec les réfugiés venus d'Amérique centrale. Nouvelle passe d'armes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Téhéran accuse Riyad de semer la division au Moyen-Orient au profit d'Israël. En ligne de mire, l'organisation par l'Arabie Saoudite de sommet des monarchies du Golfe et de la Ligue arabe avec un but: isoler le rival iranien. Dans l'actualité française, les principaux axes du projet de loi constitutionnelle qui sera présenté dans environ un mois au Conseil des ministres révélé par Le Monde aujourd'hui, au menu de l'écologie, une dose de proportionnelle et un référendum élargi. L'invitée du journal sera l'eurodéputée allemande Anna de Parnay-Grunenberg. Nous évoquerons avec elle l'avenir de l'Europe après les élections de dimanche dernier. Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia.
On parlera écologie justement à l'occasion du festival We Love Green qui commence en région parisienne demain avec un avocat, l'avocat équatorien Pablo Farjado. Et c'est avec lui toute l'histoire d'un désastre écologique et humanitaire, d'un scandale que nous vous raconterons, celui de l'affaire Texaco Chevron, du nom de cette compagnie pétrolière qui s'était implantée en Équateur au détriment des populations et de l'environnement.
Rendez-vous dans 24 minutes. Lutter contre les flux de migrants par des taxes, c'est la dernière trouvaille de Donald Trump, le président américain qui n'est pas parvenu à financer le mur qu'il souhaite ériger le long de la frontière avec le Mexique, s'en prend à son voisin par lequel transitent des clandestins venus d'Amérique centrale. Il a décidé d'imposer des taxes punitives sur les produits importés du Mexique. 5% pour tous les produits en provenance du Mexique. Ces droits de douane pourraient passer à 10% au 1er juillet et grimper de 5 points de pourcentage chaque mois jusqu'à la limite de 25% en octobre, si le Mexique, je cite, n'arrête pas considérablement le flux d'étrangers illégaux par son territoire. C'est ce qu'a précisé Donald Trump dans un communiqué publié aujourd'hui par la Maison Blanche. Une politique agressive du président américain, mais qui comporte des risques pour tout le monde. C'est ce qu'explique Philippe Golub. Il est professeur de relations internationales et d'économie politique internationale à l'Université américaine de Paris.
C'est une politique économique coercitive. C'est une politique que l'administration Trump et Trump lui-même mène non seulement vis-à-vis du Mexique, mais aussi vis-à-vis de plus en plus de pays. On le sait avec la Chine, les conflits commerciaux croissants avec l'Union européenne. Est-ce que ça peut se retourner contre lui? À terme, oui, puisque évidemment, les sanctions commerciales que mettent en œuvre les États-Unis vont engendrer des répliques côté européen et côté chinois. Et certains secteurs de l'économie américaine vont en pâtir. La question est de savoir si les secteurs qui en pâtiront aux États-Unis seront celles qui sont décisives pour lui politiquement au niveau interne.
Qu'est-ce que le Mexique peut faire?
Alors, le Mexique est dans une position extrêmement difficile puisque 70% des exportations mexicaines vont vers les États-Unis. Le Mexique est prisonnier en quelque sorte d'une situation de dépendance unique à l'exportation sur le marché américain, et le Mexique a besoin et aura besoin à terme de diversifier ses relations économiques et commerciales internationales pour pouvoir atténuer la capacité des États-Unis de peser sur les décisions et les choix mexicains. Ce sera très difficile pour le Mexique à court terme de faire autre chose que de négocier avec l'administration sur la question des dossiers commerciaux. Sur le reste, le Mexique peut mobiliser politiquement pour essayer de desserrer la pression américaine. Mais le Mexique se trouve isolé politiquement en Amérique latine actuellement. Donc leur position est extrêmement difficile.
Philippe Golub au micro de Nathanaël Charbonnier. Nouvelle passe d'armes entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Téhéran accuse Riyad de semer la division au Moyen-Orient au profit d'Israël. En ligne de mire, l'organisation par l'Arabie Saoudite de sommet des monarchies du Golfe et de la Ligue arabe. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Le but de ces sommets, le but affiché, c'est clairement d'isoler le rival iranien.
Oui, et on s'attendait plutôt à des pressions diplomatiques en coulisses, histoire de ne pas mettre en porte-à-faux certains pays de la région qui maintiennent des bons rapports avec Téhéran. Eh bien pas du tout, c'est le roi Salman d'Arabie lui-même qui s'est chargé du réquisitoire. Une charge sans concession contre le grand rival chiite iranien, en dénonçant ses ingérences, ses capacités nucléaires et balistiques, ses attaques contre des installations pétrolières saoudiennes via les rebelles yéménites Houthis que l'Iran soutient, ou encore ses sabotages de navires à l'entrée du golfe Persique à la mi-mai. Autant de menaces menace à la stabilité de la région, à l'approvisionnement en pétrole du marché mondial, qui nécessite, selon le roi Salman, une réponse ferme et déterminée. Le roi d'Arabie qui a usé de toute son autorité, de toute l'influence du royaume, résultat des griefs repris par les pays du Golfe et ceux de la Ligue arabe dans leur communiqué final, communiqué à charge auquel seul l'Irak a refusé de se joindre pour préserver des bonnes relations avec Téhéran. Dans le Golfe, le Koweït, le Qatar et Oman sont dans la même situation, mais eux n'ont pas osé s'opposer aux puissants voisins saoudiens. Alors ce matin, l'Iran a réagi, vous le disiez Antoine, en accusant l'Arabie saoudite de semer la division au Moyen-Orient au profit d'Israël et des Américains. Le week-end dernier, Téhéran avait proposé un pacte de non-agression aux monarchies du Golfe. Il n'a même pas été évoqué aux réunions à la Mecque.
Merci Aurélien Colli. Le pape François en Roumanie, il a quitté Rome ce matin pour un intense périple dans ce pays de 20 millions d'habitants riches de 18 minorités. Le chef de l'Église va aller à la rencontre des orthodoxes ultra-majoritaires dans le pays, mais aussi de la petite communauté catholique, également des Roms, que le pape va saluer au dernier jour de son voyage, qui aura lieu dimanche. C'est le face-à-face avec les orthodoxes qui sera le plus observé, Mathilde Imberti.
Après la Bulgarie en début de mois et l'accueil glacial que la hiérarchie orthodoxe lui avait réservé là-bas, nouveau défi pour le pape François. Entrer en dialogue avec l'église roumaine orthodoxe ultra-majoritaire, une église que le prêtre français Michel Kubler connaît bien. Il a fondé en Roumanie une maison pour le dialogue entre catholiques et orthodoxes.
Je pense que l'église orthodoxe roumaine saura mieux accueillir le pape François que ne l'a fait sa voisine du sud en Bulgarie récemment. Il n'empêche que ce sera un accueil relativement réservé. Ça paraîtra peut-être étonnant, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à prier ensemble, catholiques et orthodoxes. Depuis 2008, c'est interdit par l'Église orthodoxe de prier avec des catholiques ou avec des protestants. Donc il y a un espèce de gel œcuménique qui est assez pénible. C'est une de mes attentes par rapport à ce voyage, que ça puisse dégeler un petit peu les relations entre catholiques et orthodoxes. Vous savez, l'Église orthodoxe est puissante chez elle, mais se sent faible à l'extérieur. Et quand arrive le chef d'une grande confession religieuse comme le catholicisme, avec 1,3 milliard de fidèles, ça fait peur.
Le patriarche roumain Daniel se présentera publiquement avec le pape a une seule occasion, cet après-midi lorsque le pape ira prier dans la plus grande cathédrale orthodoxe au monde, celle de Bucarest, tout juste inaugurée. Son périple roumain amènera le pape également auprès de la minorité rome, dimanche, et bien sûr auprès des catholiques. Il va béatifier 7 évêques torturés sous le régime communiste.
Faut-il virer le patron de Facebook? Formule triviale, mais ce slogan était affiché en grand hier sur la façade d'un hôtel californien, un hôtel qui accueille l'Assemblée générale des actionnaires du géant du numérique. Une AG sous tension, le pouvoir de Mark Zuckerberg fait l'objet de multiples critiques ces derniers temps, au point qu'une partie des actionnaires eux-mêmes demandent au fondateur du réseau social de réduire sa mainmise et d'instaurer des contre-pouvoirs. Réponse de l'intéressé: circuler, il n'y a rien à voir. À Los Angeles, le récit de Loïc Piala.
Seriez-vous prêt à renoncer à une partie de votre pouvoir? Demande une actionnaire. Mark Zuckerberg prend 4 minutes pour répondre, évoque le besoin d'une régulation du secteur, mais ne dit jamais oui ou non. L'actionnaire insiste. Seriez-vous prêt à renoncer à votre rôle au sein du conseil d'administration? Cette fois, le modérateur met fin au débat et passe à une autre question. Habituellement, dans une assemblée générale, une action équivaut à une voix. Mais chez Facebook, certaines donnent le droit à 10 votes. Ce sont celles que Zuckerberg détient. Elles lui donnent la majorité, même s'il ne possède que 15% du groupe. D'où le terme d'autocratie, parfois utilisé pour décrire le réseau social. Ça n'a donc étonné personne que les propositions réclamant la fin de ce système ou la nomination d'un membre indépendant au conseil d'administration soient rejetées, surtout que les résultats financiers continuent de ravir les investisseurs. Mais à l'image du message, virer Zuck projeté sur l'hôtel où se tenait l'AG, ces propositions visaient avant tout à exprimer le malaise d'une partie des actionnaires.
Il était détenu depuis 2012 par l'organisation islamiste Abu Sayyaf aux Philippines. L'ornithologue néerlandais Ewald Horn a été tué aujourd'hui dans une fusillade entre ses ravisseurs et des militaires dans le sud du pays. L'annonce a été faite par l'armée et confirmée par le gouvernement néerlandais. Julian Assange présente tous les symptômes de torture psychologique à laquelle il a été exposé pendant plusieurs années. C'est ce qu'affirme le rapporteur de l'ONU sur la torture qui a pu le rencontrer en prison avec des médecins. Dans l'actualité française, l'attentat de Lyon, le principal suspect est déféré au parquet de Paris. À l'issue de 4 jours de garde à vue, ce jeune Algérien va être présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour avoir déposé ce colis piégé vendredi dernier dans une rue piétonne de Lyon. 14 personnes avaient été blessées. Et David Di Giacomo, le procureur de Paris, donne ce matin des détails sur les aveux du suspect et sur l'enquête.
Les deux premiers jours de garde à vue, cet Algérien de 24 ans, inconnu des services de police, conteste avoir déposé le colis piégé. Mais face à de nombreux éléments matériels réunis contre lui, il finit par avouer être l'auteur de l'attaque. Ce jeune suspect affirme avoir prêté allégeance à l'État islamique en son fort intérieur, selon les mots du procureur de Paris. Ce qui laisse supposer qu'il n'avait pas de lien direct avec le groupe terroriste et qu'aucune vidéo d'allégeance à Daesh n'a été retrouvée. En revanche, l'exploitation de son ordinateur a permis de découvrir qu'il consultait des sites djihadistes. Les enquêteurs ont également pu déterminer qu'il avait commandé sur Internet, le 7 mai dernier, un lot de 20 piles qui ont servi à concevoir l'engin explosif, une charge composée de 250 à 400 grammes de TATP associée à un dispositif élaboré de déclenchement à distance. À ce stade de l'enquête, les parents et le frère du suspect sont mis hors de cause.
C'est une information révélée par Le Monde, datée de demain. Les principaux axes du projet de loi constitutionnelle qui sera présenté d'environ un mois en Conseil des ministres. Ce texte pour un renouveau de la vie démocratique avait connu une version plus longue l'année dernière, mais son examen avait été stoppé net par l'affaire Benalla. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Alors quelles sont les grandes lignes de ce futur texte ?
On y trouve trois grandes nouveautés. D'abord, à l'article 1er de la Constitution serait ajoutée une disposition en faveur de l'environnement. La République agit pour la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et contre les changements climatiques, indique le texte. On va là, bien au-delà du simple ajout à l'article 34 d'une action contre les changements climatiques prévue dans le texte initial. Deuxièmement, à l'article 2 serait ajoutée la possibilité pour le président de la République de soumettre à référendum un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics à l'échelle nationale ou territoriale. Et puis ces référendums pourront désormais porter sur des questions de société. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça n'était pas autorisé jusqu'ici. Il est également prévu d'abaisser les seuils requis pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, le fameux RIP. On n'exigera plus les signatures que de 10% des parlementaires contre 20% actuellement. Et puis les signatures d'un million seulement d'électeurs contre 4 700 000 aujourd'hui. Enfin, un pan entier de cette réforme a été abandonné, celui concernant la procédure parlementaire. Le texte initial prévoyait notamment de réduire le dépôt d'amendements et de raccourcir la navette parlementaire. Ces dispositions déplaisaient fortement aux députés et sénateurs de l'opposition. Elles ont été supprimées.
Alors est-ce que le résultat de l'exécutif correct, on va dire, lors des dernières élections européennes, dimanche, a quelque chose à voir avec le retour de cette réforme à l'agenda de l'exécutif ?
Disons que ça facilite les choses, puisque ce volet constitutionnel de la réforme des institutions, vous le disiez tout à l'heure, avait commencé à être examiné par le Sénat en juillet de l'année dernière. Et puis l'affaire Benalla avait surgi dans l'actualité. Tout avait alors commencé à dérailler pour le chef de l'État. Les sénateurs avaient dégainé leur commission d'enquête parlementaire, torpillant par là même l'examen de cette réforme, dont on se demandait si elle allait un jour pouvoir être à nouveau remise à l'ordre du jour. On voit donc que l'exécutif, et en particulier le président de la République, estime être relégitimé par le score obtenu aux européennes. Et le retour de cette réforme dans l'actualité montre que le gouvernement a bel et bien l'intention de relancer la machine à réforme comme avant, actant ainsi que, selon lui, la contestation des Gilets jaunes appartient au passé. Ceci dit, ce n'est là que le volet constitutionnel de la réforme des institutions. Ce n'est pas le plus polémique au regard des parlementaires. Ce sont les deux autres volets qui sont les plus sensibles, ceux contenus dans la loi organique et la loi ordinaire, qui prévoit la réduction notamment du nombre de parlementaires et l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Et ces deux volets-là, pour le moment, on les a prudemment laissés dans les cartons.
Merci Stéphane Robert. L'association de défense des consommateurs et l'UFC Que Choisir vont saisir le Conseil d'État pour faire annuler la hausse de presque 6% du tarif réglementé de l'électricité qui va entrer en vigueur dès demain. Elle dénonce une grave faute du gouvernement. Réponse ce matin sur France Info de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Emmanuel Wargon rappelle que les tarifs, je cite, sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie qui applique sa méthode de calcul. Et cette augmentation est, selon elle, liée à l'ouverture à la concurrence qui était pourtant censée faire baisser les prix. On l'écoute.
C'est complètement paradoxal. La formule de calcul qui s'appliquait, qui avait du sens quand il y avait très peu de concurrence, mène à ces effets contradictoires, paradoxaux, à savoir l'augmentation des tarifs est due à la volonté de préserver ou de favoriser la concurrence.
Et c'est la raison pour laquelle... La concurrence qui devait faire baisser les prix, aujourd'hui les fait augmenter.
C'est un mécanisme de calcul compliqué qui arrive à un résultat qui ne va pas. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, moi je suis convaincue qu'il faut changer cette formule de calcul.
Donc c'est la dernière fois que ce mode de calcul s'applique.
En tout cas, il faut qu'on y retravaille. Le gouvernement va y retravailler. Il y a une loi énergie qui arrive portée par François de Rugy. Moi, je vous dis, de mon point de vue, cette formule de calcul, elle n'a plus de sens.
Emmanuel Wargon, on envisage déjà une nouvelle hausse après celle qui doit intervenir demain, sans doute pour le mois d'août. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou pas?
Non, je ne confirme rien à ce stade. Cette histoire de formule de calcul se réapplique normalement deux fois par an, donc la question se repose en août, mais je n'ai pas les chiffres et les montants, donc pas d'annonce à ce stade. Tant que le mécanisme n'a pas changé, tant que nous n'avons pas touché à la loi et tant que nous n'avons pas revu la manière dont le prix de l'électricité est fixé, à la fois pour les tarifs réglementés, donc pour près de 25 millions de ménages, et pour le reste des consommateurs, il est possible qu'il y ait une nouvelle hausse. Après, je voudrais juste mentionner que le prix de l'électricité pour les ménages reste moins cher en France qu'en Europe. Il est environ 15% moins cher que la moyenne européenne.
Mais il a bondi d'environ 35% depuis 10 ans.
Oui, mais il reste moins cher. Il reste plus de 25% moins cher qu'en Allemagne, à peu près pareil en Italie. Donc ça augmente trop vite. Cette formule doit être changée. Mais le prix reste moins cher que nos principaux concurrents européens.
Emmanuel Wargon au micro de Marc Fauvel. Aux États-Unis, à Chicago précisément, s'ouvre ce vendredi le plus grand congrès mondial consacré à la lutte contre le cancer. Des dizaines de milliers de spécialistes ont rendez-vous jusqu'à mardi pour faire le point sur la maladie. Ils devraient notamment revenir sur un médicament innovant qui commence à faire ses preuves dans les cancers du sang. Il s'agit d'une immunothérapie baptisée CAR-T-cells qui permet de combattre les leucémies aiguës chez l'enfant et les lymphomes chez l'adulte. Ces thérapies sont autorisées en Europe depuis l'été dernier, et la France est l'un des pays qui a soigné le plus de malades, environ 80, dont une soixantaine sont passés par l'hôpital Saint-Louis, où vous êtes rendu. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
À Saint-Louis, le professeur Thieblemont, chef de service en hémato-oncologie, soigne les adultes atteints de lymphome. Elle vous a expliqué le circuit complexe de ces médicaments innovants.
Oui, c'est de l'immunothérapie. Les cellules immunitaires du patient sont prélevées, puis reprogrammées dans un labo à l'étranger pour reconnaître la tumeur, résume le professeur Thieblemont.
Ces cellules vont être envoyées sur une plateforme aux États-Unis ou en Europe pour être modifiées de façon génétique. Ensuite, les cellules reviennent congelées à l'hôpital. On prépare le patient avec une chimiothérapie pour permettre d'accueillir ces cellules. Et les cellules sont réinjectées et la réinjection dure à peine 5 minutes.
Quand le professeur Thieblemont dit que c'est juste une injection, moi je veux bien, mais enfin quand même, c'est pas aussi simple que ça en tant que patient.
Nadine Chopin, qui était réfractaire à tout traitement classique, a été soignée cet automne.
C'est-à-dire que déjà, on vous met sous chimio pendant quelques mois parce qu'on vous prélève vos cellules qui sont envoyées aux États-Unis et là, actuellement, il faut encore 2 ou 3 mois avant qu'elles reviennent. Donc pendant ces 2-3 mois, le lymphome étant un cancer très agressif qui se développe très vite, il faut vous garder en vie, donc on vous met quand même sous chimio.
Une chimio légère, reconnaît Nadine, et puis c'est l'injection des cellules miracles modifiées pour tuer le cancer. Il faut alors surveiller de près le patient pour juguler les effets secondaires et notamment
des syndromes de relâchage cytokinique qui sont dus à une expansion très importante des cellules lorsqu'on réinjecte les cellules.
Mais ça donne quoi, enfin,
fièvre, hypotension, frisson. On peut en mourir éventuellement, ouais. Et c'est pour ça que tous les hôpitaux ne peuvent pas avoir ce type de traitement parce qu'on a besoin d'un service de réanimation qui peut prendre en charge les patients de façon immédiate.
Le professeur Thieblemont précise qu'une quinzaine d'hôpitaux doivent être agréés d'ici la fin de l'année. Quant à Nadine, elle reconnaît avoir eu beaucoup de chance.
J'ai eu de la fièvre, bon là je pouvais rien manger, je buvais que de l'eau chaude, je pouvais absolument rien avaler, voilà, ce sont des petits effets secondaires mais qui sont absolument, vraiment, on n'en parle même pas, hein, tellement c'est rien par rapport à d'autres personnes. En attendant, pour l'instant, je suis en rémission complète.
Comme Nadine, 35% des malades d'un lymphome réfractaire à la chimio répondent admirablement et dans les leucémies aiguës de l'enfant, le taux de réponse dépasserait même 80%.
Merci à vous Tara Schlegel. Midi passé de 49 minutes sur France Culture. Notre invitée Europe aujourd'hui est Anna Deparnay-Grunenberg. Bonjour madame. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends parfaitement bien.
Alors vous êtes avec nous en direct de Berlin. Vous êtes eurodéputée allemande pour le parti écologiste Die Grünen. Votre parti, qui rappelons-le, a fait une véritable percée dans ces élections européennes en obtenant la seconde place derrière la CSU d'Angela Merkel. Alors quelle est selon vous la différence entre un écologiste allemand, un Grünen, et un écologiste français d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'il y en a?
Il y en a sûrement entre nous, même à l'intérieur des Grünen et à l'intérieur des écologistes français. J'imagine que l'histoire des deux partis et aussi surtout les constellations politiques dans lesquelles nous agissons sont tellement différentes dans nos deux pays qu'en fin de compte, il y a des différences. C'est sûr, nous en Allemagne, depuis très longtemps, on travaille dans nos communes, dans les grandes villes, dans nos Länder, en coalition, vu qu'on a un système majoritaire, un système proportionnel, excusez-moi, et donc on peut prendre des responsabilités dans des cohabitations et des coalitions différentes avec toutes les couleurs et constellations politiques, sauf avec l'extrême droite. Et donc on a atteint une certaine force d'autonomie et nous pouvons jouer beaucoup avec ça. Ça nous a fait sûrement fait faire des pas différents. Mais au niveau contenu, je pense que là où on veut aller, nos thèmes écologistes sont exactement les mêmes. Protection des ressources naturelles, climat, biodiversité, énergie, le respect de l'être humain, cohésion sociale, démocratie, le droit de la femme. Il y a tellement de choses communes. Voilà, on est en fait pas si différents. Le spectre est peut-être plus large en Allemagne, sur le terrain, quand je vois ce que font donc les écologistes français, ELV, à Nantes ou en Alsace, avec des projets d'écoquartier, l'énergie, les transports, c'est très très semblable de ce que nous faisons, nos mêmes combats et les mêmes méthodes que ce que nous faisons en Allemagne.
Donc en résumé, Anna de Parne-Grüningen, quand on dit finalement les Grünen sont plus à droite que Europe Écologie Les Verts seraient à gauche, vous dites non ?
Non, je dis non. Comme je disais avant, ce sont des constellations différentes. Peut-être que le spectre est un peu plus grand, c'est sûr, mais Europe Écologie Les Verts a aussi, cette fois, ouvert les portes à d'autres constellations et à des places d'ouverture, comme ça s'appelle en France. Mm-hmm. Je pense que c'est la même recherche et le même terrain que nous avons à travailler.
Alors, quelle est la première mesure concrète que vous voudriez faire adopter au Parlement européen ?
Alors moi, en tant que députée, je vais proposer donc ma participation, hein, c'est tout le début, donc on n'est pas encore sûr, dans les commissions des transports et de l'agriculture. Ce sont mes deux thèmes de prédilection et je pense qu'il faut dans les deux domaines avoir une approche un peu similaire, c'est-à-dire vraiment se poser la question, l'argent distribué par l'Union européenne, dans la PAC par exemple, ou dans les transports, plutôt à un niveau des impositions, il faut qu'elle soit vraiment dédiée au bien public. C'est-à-dire se poser la question, c'est quoi le bien public ? Bien, le bien public, nous, on dit, c'est le respect des générations futures, protection donc du climat, protection des sols, des espèces, la cohésion sociale. Donc il faut, bien sûr, par exemple, pour être concrète, dans l'agriculture, prenez une agriculture qui va justement permettre au sol de se régénérer, donc une agriculture plus biologique. On ne peut pas mettre de l'argent dans des pratiques qui font exactement le contraire de ce qu'on a défini en tant que société, en tant qu'Europe.
Donc les Verts, vous serez vigilants sur ces subventions publiques, qu'elles aillent sur une agriculture propre ?
Exactement, donc c'est pas de pesticides, c'est aussi, surtout dans certaines parties de l'Europe, nous avons vraiment toujours un élargissement, un agrandissement des agricultures. Et donc nous, on veut aussi prôner l'agriculture classique, biologique, petite, qui sait vraiment sur le terrain ce qui est bon pour ces écosystèmes-là. C'est ça qu'on veut faire.
Les négociations sur les postes européens les plus importants, hein, qui seront tous à pourvoir dans les prochains mois, ont commencé. Les présidences de la Commission, du Conseil, de la Banque Centrale Européenne et celui du Haut Représentant pour les Affaires étrangères. Pensez-vous que vous, les Verts, vous pouvez décrocher un de ces quatre postes ?
On n'approche pas de cette manière-là, parce que les postes, bien sûr, sont aussi importants que ce soit des personnes responsables et qui font avancer l'Europe. Mais nous, on veut que ce soit en premier la force du Parlement européen, donc de la représentation des citoyens qui soient vus cette fois et que ce soit pas les États membres qui définissent ça par rapport à des critères intransparents. Nous tenons au système des Spitzenkandidat. On a peut-être, en tant qu'écologiste, une interprétation un peu plus large. Spitzenkandidat, pour moi, c'est Weber, c'est Timmermans, c'est Vestager, c'est aussi Ska Keller et Bas Eickhout. C'est toutes des personnes qui se sont mis en avant pendant ces élections et qui sont donc maintenant des représentants, ils peuvent être des représentants des citoyens. Après, nous, on veut faire donc des parlementations par rapport au contenu. La seule chose qui nous est importante, c'est est-ce qu'il va y avoir des progrès très concrets au niveau du climat, au niveau de la transition écologique, charbon, est-ce qu'il y a des progrès très 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 concret dans la PAC, donc ce qu'on vient de dire avant, les pratiques agricoles, un vrai changement de cap, on a besoin dans ce domaine, et puis aussi dans la protection sociale, la démocratie, l'état de droit, tout cela c'est des choses où on va les mettre noir sur blanc et on va aller dans les parlementations en espérant trouver une majorité qui veut vraiment faire changer les choses. Et après, les histoires de poste, c'est un deuxième plan.
Merci, merci beaucoup à vous, Anna de Parnay-Grunenberg. Merci également à vous, Annabelle Grelier. Désolé pour la liaison technique qui n'était pas très bonne. La France aura des allures d'été cet après-midi. Le soleil sera très largement dominant partout et les températures seront en hausse. 18 degrés à Cherbourg, 25 à Paris, 28 à Mont-de-Marsan. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Ne manquez pas le grand reportage à 17h présenté par Aurélie Kiefer. Cette semaine, il aura pour titre « École de la confiance, un défi en Guyane », reportage de Hakim Kasmi réalisé par Annie Brault. Et prochain journal à 18h avec Benoît Bouscarel.